France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité.
Les informations, Margot Delpierre.
Bonjour à tous. 3 soldats français ont été tués hier dans la zone des 3 frontières dans le centre du Mali, où la force antiterroriste française Barkhane concentre ses efforts depuis janvier. Leur véhicule blindé a été atteint par un engin explosif improvisé alors qu'il participait à une opération, a expliqué l'Élysée. Ces 3 décès portent à 51 le nombre de soldats français tués au Sahel depuis 2013. Loujane Al-Atloul, une militante saoudienne des droits humains, a été condamnée hier à 5 ans et 8 mois de prison. Elle a été reconnue coupable de diverses activités prohibées par la loi antiterroriste. Elle avait été arrêtée il y a 2 ans avec d'autres militantes, peu avant la levée de l'interdiction de conduire faite aux Saoudiennes. Des responsables américains déplorent cette décision de justice aux États-Unis. Le président élu Joe Biden regrette par ailleurs ce qu'il appelle l'irresponsabilité de l'administration Trump. Il affirme qu'elle ne fournit pas les renseignements nécessaires à l'équipe chargée de la transition en ce qui concerne la sécurité nationale. Un conseil de défense sanitaire se tiendra aujourd'hui en France, alors que plusieurs responsables politiques s'inquiètent d'un rebond de l'épidémie dans certaines régions, notamment dans le Grand Est. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, n'exclut pas l'hypothèse d'un 3e confinement. Nous y reviendrons dans le journal de 6h30. Enfin, hier, les représentants des 27 pays de l'Union européenne ont donné leur feu vert à une application provisoire au 1er janvier de l'accord commercial post-Brexit, accord conclu entre Bruxelles et Londres. Provisoire, car il faut attendre l'approbation par les eurodéputés pendant le premier trimestre 2021. Le texte fait près de 2000 pages. Tout de suite, le monde vivant, Bruno David. Aujourd'hui, le poisson lune, un poisson indolent.
Rêvons un peu. Par une belle journée ensoleillée, vous vous accoudez au bastingage de votre navire de plaisance et contemplez l'immensité de l'océan. Au loin, un spectacle étrange attire votre regard. Des oiseaux semblent marcher sur l'eau. Le bateau s'approche et vous vous attendez à voir flotter un paquet d'algues ou la dépouille d'un animal. Mais non. Alors que les oiseaux s'enfuient, vous apercevez un disque plat de 3 mètres de diamètre, gris-argenté, flottant placidement. Quelle est cette créature ? Un poisson lune. Mola mola, l'un des poissons les plus extraordinaires, proche du fugu japonais et de certains poissons de récif. Sa masse dépasse la tonne. Contrairement à la plupart des poissons qui se respectent, le corps n'est pas allongé, mais ovoïde, aussi long que haut, et comprimé latéralement. 2 ailerons imposants pointent respectivement vers le haut et vers le bas. Ils sont fichés sur une tête énorme, suivie d'un corps qui semble tronqué verticalement à l'arrière. Mais où est sa queue ? Habituellement, un poisson est pourvu à l'arrière d'une nageoire caudale qui sert de propulseur. Chez le poisson lune, pas de nageoire caudale, mais une frange en forme de liseré, sorte de pseudo-nageoire verticale connectée aux 2 ailerons. Est-ce une caudale modifiée ? Pas du tout. Cette frange est issue de la fusion entre 2 autres nageoires, l'une dorsale, l'autre ventrale, qui se sont rejointes. Quant à la nageoire caudale, il n'y en a plus. Comment ça ? Oui, disparu au cours de la croissance, car la larve de notre poisson lune est plutôt normale, avec sa nageoire caudale frétillante et toutes ses autres nageoires bien en place. C'est en grandissant qu'elle est devenue bizarre, perdant une nageoire, en fusionnant d'autres, s'aplatissant, etc. On perçoit tout de suite que cet ersatz de nageoire caudale est inapte à faire avancer la bête. Ce sont les ailerons qui battent en alternance, ce qui fait que le poisson lune avance en godillant doucement. Il faut dire que le poisson lune ne pique jamais de sprint. Il se nourrit de méduses et nul besoin de nager vite pour les attraper. Heureusement, car cette nourriture est tellement peu énergétique que notre poisson lune doit en consommer chaque jour la moitié de son poids. Comme il est lent, Mola Mola est une proie facile et sa chair est un mets recherché, notamment à Taïwan et au Japon. Il figure aussi dans certaines médications traditionnelles chinoises. Il détient le record du parasitisme. 40 espèces de parasites habitent sa peau épaisse et lisse. Il doit faire appel à des nettoyeurs pour s'en débarrasser. Des poissons, mais pas seulement. Il se couche sur le côté et se laisse flotter. Il propose sa peau aux oiseaux marins qui viennent lui ôter ses parasites. les scientifiques font aussi l'hypothèse qu'ils se chauffent au soleil et procèdent à une sorte de recharge thermique avant de retourner chasser mollement. Un poisson-lune qui prend un bain de soleil, voilà le firmament au complet.
Pour la fin d'année, offrez-vous France Culture. Des philosophes amoureux, des animaux, les dernières nouvelles de l'univers.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
C'est l'un des plus grands romans d'aventure du 19e siècle. Le Capitaine Fracasse sur France Culture.
Je ne saurais paraître sur un pied digne de mon nom. Je ne sais même pas, en réunissant toutes mes ressources, si je pourrais arriver jusqu'à Paris.
Vous n'êtes pas obligé d'entrer triomphalement dans la grande ville.
Déclaration d'amour à la langue, le style précieux des salons comme l'argot des tavernes. Suivons-le, Vent debout, Le Capitaine Fracasse de Théophile Gauthier. Le feuilleton, de lundi à vendredi à 20h30 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Nous qui sommes sans passé, les femmes.
Elles sont artistes, écrivaines, politiques, avocates, juges. Je ne saurais pas arriver là-ci. Nouveau podcast original de France Culture. Angélique Kidjo, Amélie Nothomb, Virginie Despentes, Christiane Taubira, Gisèle Halimi ou Shirin Ebadi. Des femmes qui ont imposé leur voix dans un monde forgé par les hommes. À partir d'une série d'entretiens d'Annick Cogent, écoutons-les dans les voix de Julie Gaillet et Judith Henry qui signent la mise en scène. Je ne saurais pas arriver là-ci sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Réveil culturel, émission préparée avec Corinne Amar, réalisée par Vincent Abouchard avec ce matin à la prise de son, Élise Leu. Vous avez déjà entendu parler bien sûr d'Astro Boy, d'Akira, de Dragon Ball, de Ratman ou autres super-héros de la bande dessinée japonaise. Même si vous n'êtes pas fan des mangas, vous avez sans doute des enfants, des amis, des conjoints qui en s'en fout. Mais pour savoir comment se fabriquent ces héros en papier, j'ai invité aujourd'hui Nicolas Télope qui sort aux Impressions Nouvelles, un très beau livre consacré à Astro Boy, donc un des grands héros de ces super-héros de japonais. Et j'ai invité également l'éditeur Grégoire Hello, qui vient de traduire un livre passionnant, puisqu'il est écrit par Hiroki Goto, qui a été un des grands rédacteurs en chef de ces magazines de manga au Japon, Jump, l'âge d'or du manga. C'est d'ailleurs le titre de cet ouvrage édité par Kurokawa.
Le réveil culturel, Toufik Hakem, sur France Culture.
Aujourd'hui, on va parler de la fabrique des super-héros en papier au Japon, c'est-à-dire dans le monde des mangas, toutes périodes confondues. D'Astro Boy à One Punch Man, comment on fabrique ces super-héros? Alors bien sûr, pour Astro Boy, le petit robot inventé en 1952 par Osamu Tezuka, gros succès d'ailleurs de la série SF, et puis bien sûr de son adaptation en dessin animé, c'est plutôt avec vous, Nicolas Télope, qu'on va en parler, puisque vous venez de publier aux Impressions Nouvelles Astro Boy, Cœur de Fer, et puis on évoquera d'autres héros de shonen, de manga pour garçons, avec vous, Grégoire Hello. Grégoire Hello, vous venez de publier un très beau livre, Jump, l'âge d'or du manga. En fait, ce sont les souvenirs d'un des éditeurs de cette revue emblématique des mangas, Hiroki Goto, c'est bien ça?
Tout à fait.
C'est un des grands rédacteurs en chef donc de cette revue, vous allez nous en parler, Weekly Shonen Jump, la plus emblématique, ça je l'ai dit, celle qui a donné naissance à des blockbusters de la bande dessinée Nippon, Dragon Ball, Z, Naruto, la série One Piece. Alors ce livre passionnant nous raconte de l'intérieur comment fonctionne la fabrique des héros au pays des mangas, mais d'abord un mot sur le métier d'éditeur. Hiroki Goto, est-ce qu'il était aux commandes d'ailleurs de ce fameux Weekly Shonen Jump quand l'hebdomadaire tirait jusqu'à 6 millions d'exemplaires, c'était l'âge d'or, c'était les années 80. Alors, est-ce qu'il ressemble à ces homologues de la bande dessinée franco-belge? Est-ce qu'on peut dire que Hiroki Goto, c'est le Yvan Delporte? Yvan Delporte, bien sûr, qui était le rédacteur en chef du journal Spirou de 56 à 68, c'est-à-dire l'âge d'or de cet hebdomadaire, ou pour parler d'un autre exemple et d'un autre grand scénariste, Goscinny, dirigeant pilote. Est-ce qu'ils font le même métier?
Alors pas exactement, parce qu'il y a vraiment des spécificités dans le monde de l'édition japonaise. qui serait d'ailleurs pas forcément très bien vécu chez nous. Comme l'explique Hiroki Goto dans son livre, les spécificités du manga, c'est que chaque semaine, les dessinateurs doivent montrer à leur responsable éditorial ce qu'ils comptent faire la semaine suivante.
C'est pas l'équivalent d'un éditeur en France ?
C'est pas non, parce que en fait, par exemple, prenons la revue Jump. Dans la revue Jump, toutes les semaines, il y a une vingtaine de chapitres d'une série différente. Il va y avoir un chapitre de Dragon Ball, Nicky Larson, Olivier Tom, etc. Et chacune de ces séries est pilotée par un responsable éditorial qui a la charge d'encadrer l'auteur. Et donc, chaque semaine, l'auteur va montrer à son éditeur un storyboard et ils vont en discuter ensemble. Et l'auteur va attendre les retours de l'éditeur. L'éditeur va lui dire non, alors ce personnage-là, les gens l'aiment pas, donc faudrait que tu le tues. Là, c'était plutôt dramatique, donc la page d'après, faudrait que tu mettes un gag. Voilà. Et ils vont affiner ensemble l'efficacité narrative de chaque chapitre.
Alors, ce que vous dites, Grégoire Hellot, c'est que les auteurs ont moins de marge de manœuvre qu'en Europe, par exemple.
Exactement. Mais ils l'acceptent, c'est-à-dire que le c'est pas gratuit. Les conseils que leur donnent leurs éditeurs, c'est dans un souci d'efficacité. Parce que au Japon, si votre série fonctionne pas, elle est coupée avant la fin. Donc le but d'un éditeur, c'est de garder sa série en route le plus longtemps possible et donc de donner les meilleurs conseils à son auteur pour gagner la popularité des lecteurs.
Et enfin, pour terminer avec cette comparaison, Yvan Delporte ou Goscinny étaient des scénaristes. Est-ce que les grands rédacteurs en chef des magazines de manga au Japon, comme Hiroki Goto, sont des scénaristes ou est-ce qu'ils viennent plutôt d'une école de commerce?
Non, c'est vraiment... alors, ils ont des parcours assez disparates, mais les grands éditeurs, d'une manière générale, ont fait des études de lettres. Par exemple, Hiroki Goto explique que lui, il voulait rentrer chez l'éditeur japonais qui publie le magazine Jump, mais lui, ce qu'il voulait, c'est intégrer la section roman. Ouais. Il se voyait pas du tout, ou alors les magazines, il se voyait plus journaliste qu'éditeur. Mais c'est... Je sais pas si on peut vraiment dire qu'ils sont scénaristes, mais ils ont en tout cas une âme de conteur, dans la mesure où ils sont toujours capables d'expliquer à leur auteur pourquoi telle chose fonctionne et l'autre fonctionne pas. Lui donner aussi des... Par exemple, quand l'auteur de Dragon Ball est sec, il dit « Oh, je veux arrêter ma série, j'ai plus d'idées », c'est la responsabilité de son éditeur de lui dire « Non mais attends, peut-être que tu pourrais dire que le héros il vient de l'espace ou qu'il se fait attaquer par des robots ou des... » Voilà. Et donc c'est le rôle de l'éditeur aussi de relancer l'auteur quand il est un peu à bout de souffle, quand sa capacité créative est un peu épuisée.
Donc il est vraiment au centre, l'éditeur, hein, de ce processus créatif de manga. C'est ce qui explique donc Hiroki Goto, c'est ce que vous voulez de nous dire aussi Grégoire Hellot, et on se rend compte que ça a toujours existé dans le monde des mangas, Nicolas. L'antilope Astro Boy, par exemple, c'est un personnage mis en avant par un éditeur et pas par l'auteur.
Ah oui, tout à fait. Et c'est très éclairant ce qui vient d'être dit, parce que c'est exactement ce qui est arrivé à Tezuka pour Astro Boy. Parce qu'à l'origine, Astro, il est apparu dans une série qui s'appelait L'Ambassadeur Atom, Atom sans E à la fin, et qui racontait les aventures d'une... c'était une série de science-fiction assez traditionnelle, avec un monde parallèle qui se rencontrait avec le nôtre, etc. Et Astro, c'était un personnage très secondaire, un robot un peu burlesque, clownesque, qui était tourné en ridicule, qui apparaissait comme une sorte de pantin comique, quoi. Et très rapidement, la série, on s'aperçoit qu'elle ne prend pas, et le magazine qui s'appelait Shonan décide d'arrêter la publication de l'Ambassadeur Atom. Donc Tezuka imagine une fin, une conclusion un peu en catastrophe, et le magazine lui suggère aussi de reprendre finalement ce personnage très secondaire d'Astro pour en faire un personnage principal d'une série régulière dans le magazine. On est en 51, et pendant toute l'année 51, l'Ambassadeur Atom est publié, et en 52 apparaît la première aventure d'Astro Boy en tant que personnage principal.
Alors le titre de votre ouvrage analytique autour d'Astro Boy, c'est Astro Boy, cœur de fer, c'est aux impressions nouvelles. Je rappelle, c'est un beau titre, hein, le fait d'associer cœur avec fer, c'est un peu ça Astro Boy, c'est-à-dire comment humaniser un super-héros qui à la base était un robot, c'est ce que va faire Tezuka, durant 10 ans. C'est ça, l'évolution va durer un peu plus de 10 ans du personnage. Il sera même marqué par les grands changements de 68, comme on peut l'apprendre à travers votre texte.
Oui, tout à fait. Mais le changement, il se fait déjà malgré lui, parce que le directeur de Shonen, pour le convaincre de faire un personnage vraiment attachant pour les lecteurs du magazine, lui dit qu'il faut prendre Astro non pas comme un robot, mais comme un enfant. Tezuka est effondré parce qu'il s'imagine pas comment il peut faire ça, parce que pour lui c'est vraiment un personnage ridicule, un personnage froid. Il a du mal à se projeter dans cet univers-là. À partir du moment où on lui dit, mais de toute façon les lecteurs, ils ont déjà acquis le fait qu'Astro c'était pas seulement un robot, c'était aussi un enfant. Eh ben, il va développer cette image un petit peu ambiguë qui effectivement va courir pendant une grosse dizaine d'années sur l'indistinction qu'il y a finalement chez lui entre le véritable enfant et le pur androïde robot de science-fiction, quoi.
Pour reprendre un peu la thématique de ce réveil culturel, comment on fabrique des super-héros dans le monde des mangas? Là, on sait à travers ce que vous venez de dire que c'est vraiment un travail d'éditeur. Les éditeurs sont très présents, mais ces super-héros, ils naissent aussi dans un contexte particulier. Par exemple, si on doit parler d'Astro Boy avec vous, Nicolas Télop, vous dites que c'est un personnage qui, comme tous les autres héros de bande dessinée, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, que ce soit Superman, Batman aux États-Unis ou Tintin, ce sont des orphelins parce que c'est un monde qui sort d'une guerre et même de deux guerres.
Oui, alors après la figure de l'orphelin, c'est un archétype qui remonte à l'origine du monde quelque part. Hein. Les récits qui mettent en scène des orphelins, il y en a partout dans les mythes, dans la Bible. Enfin, vraiment, c'est omniprésent. Et effectivement, dans le monde de la bande dessinée, il y a quelque chose qui se passe au XXe siècle où la plupart des héros classiques qui sont créés sont des orphelins. Tintin, il est pas nommé comme tel, mais on parle jamais de sa famille. Et les personnages qui vont lui tenir compagnie sont des pères de substitution. C'est Haddock, c'est Tournesol. Et après, les super-héros, c'est évident, quoi. Batman, Superman sont tous des orphelins et... voire même, ils sont super-héros parce que ils sont orphelins. C'est parce qu'ils ont perdu leur famille, c'est parce qu'ils n'ont plus de repères, c'est parce que il faut trouver leur place dans le monde, qu'ils choisissent de prendre un costume super-héroïque, une identité secrète, et puis de venir à la rescousse de la veuve et de l'orphelin, quoi.
En éditant les mémoires de Hiroki Goto, on se rend compte aussi de l'importance qu'ont les lecteurs quant à la fabrication d'un héros. En fait, c'est encore plus poussé que le système hollywoodien qui faisait visionner ses films avant de les monter définitivement. Là, c'est carrément le point de vue des lecteurs, à partir d'un questionnaire plutôt subtil, que vont se dégager les caractéristiques d'un personnage de bande dessinée.
Oui, alors c'est vrai que c'est assez révolutionnaire quand le magazine Jump décide de faire une enquête chaque semaine très très précise avec des questions très pointues. On demande aux jeunes lecteurs, aux enfants, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, qu'est-ce qui te fait plaisir, qu'est-ce qui te fait peur. Et ils se collectent comme ça une base de données qui aurait coûté des millions et des millions à mettre en place d'une manière totalement classique. Et ils ont un instantané chaque semaine de la jeunesse japonaise. Et à partir de là, ils vont affiner ce qu'ils vont proposer aux enfants en rapport de ce qui est à leur goût et de ce qui est à la mode aussi. Donc ça va leur permettre d'avoir effectivement des héros qui sont à la carte dans l'air du temps. C'est-à-dire que on évoquait l'après-guerre, quand le magazine Jump démarre, les héros principaux du magazine, bon, ça va être les élèves insoumis de l'école impudique, qui est le premier grand manga du créateur de Goldorak, où voilà, pendant mai 68, parce qu'il y a eu aussi mai 68 au Japon, on l'ignore beaucoup, mais eux aussi, ils ont eu leur révolte étudiante. Et voilà, c'était un manga qui a fait énormément de scandales, parce que c'était un manga qui se déroulait dans un collège, où les professeurs tapaient les garçons et mataient sous les jupes des filles. Et du coup, les héros devaient organiser la révolte des élèves contre les profs qui étaient des salauds. Et c'est un manga qui a fait énormément de parler de lui, parce qu'on ne pouvait pas manquer de respect au corps enseignant. Et dans ce magazine-là, on le faisait. Et le deuxième manga qui était vraiment très très important dans le Jump, c'était un manga qui parlait de voyages
voyous. Voilà, c'est après-guerre, les voyous, les va-nu-pieds, ceux qui sèchent l'école pour se bagarrer, les bad boys, etc.
Mais là, on reste dans des propositions d'auteurs. Ce sont pas des demandes de lecteurs.
Quelque part, si, parce que ce sont aujourd'hui les mangas qui restent. Mm-hmm. C'est-à-dire que tous les mangas qui ont été oubliés, vous sortez un nouveau manga. Bon. Si les lecteurs disent non, au bout de 3-4 chapitres, hop, vous êtes dégagé. Ça, je vous parle des mangas qui, encore aujourd'hui, restent dans les mémoires. S'ils restent dans les mémoires, c'est parce qu'il y a eu plus d'une dizaine de chapitres et que les lecteurs les ont validés. Il y a aussi les mangas qui ont évolué au fur et à mesure de leur publication.
Des lecteurs, ouais.
Bien entendu. Hiroki Goto parle d'un manga qui est très intéressant. L'exemple est très intéressant. C'est Le Loup des Circuits. Donc, c'est un manga qui se passe dans l'univers de la course automobile. Bon, le manga marchait pas très bien. Donc ils ont décidé de l'arrêter. Et au moment où ils décident de l'arrêter, le Japon gagne un Grand Prix. C'était assez exceptionnel. Et d'un seul coup, paf, la popularité du manga explose. Parce que d'un seul coup, il y a un emballement autour des courses auto. Et à partir de là, forcément, on va continuer le manga puisque les gens l'aiment. Puisque maintenant, les gens s'intéressent aux courses auto. Et d'un seul coup, tous les petits garçons japonais rêvent de devenir pilotes de course. Et à partir de là, le manga se transforme complètement. Et ça devient une histoire de rivalité. C'est comme ça.
Fabrique des super-héros dans l'industrie des mangas ce matin dans le Réveil culturel en compagnie de l'éditeur Grégoire Hello et du journaliste Nicolas Télope. Dragon Ball Z, bien évidemment, mais avant la consécration par le film d'animation, parce que je suppose que avant de devenir un film, une série de dessins animés, c'est d'abord un succès en bande dessinée. Et Dragon Ball, c'est un des personnages de cette revue mythique Weekly Shonen Jump. Vous publiez d'ailleurs les mémoires d'un des rédacteurs en chef emblématiques de cette revue, celui qui était aux commandes quand cette revue connaissait son âge d'or, c'est-à-dire les années 80, et ses 6 millions d'exemplaires par numéro. Dragon Ball, mais en quelle année?
Alors là, on est en 86-87.
Donc on est en plein âge d'or de cette revue. Et est-ce que pour le reste des super-héros, on est vraiment dans cette culture pop?
Alors, mon compère en parlera sûrement mieux que moi, mais il y a beaucoup d'éditeurs de mangas, et Monsieur Goto en tête, qui disent aujourd'hui, on a de plus en plus de mal à avoir des bons éditeurs de mangas parce qu'ils ont une culture manga. Alors qu'à l'époque, les éditeurs qui aidaient à inspirer les auteurs, c'était des gens qui avaient de la culture cinéma, de la culture classique, de la culture littéraire, etc. etc. Osamu Tezuka lui-même, par exemple, était un très grand lecteur de comics américains.
Oui, Nicolas, t'es là.
Oui, oui, et puis un amateur de cinéma aussi. Il passait à la fin de la guerre ses journées entières au cinéma pour voir des films, mais aussi des dessins animés. Disney, en l'occurrence, c'est une de ses énormes influences. Et en ce qui concerne Astro Boy, c'est la vision de Pinocchio qui va en quelque sorte être un élément déclencheur pour se dire, ah tiens, ce robot, il peut être humanisé, il peut avoir l'air d'un petit garçon finalement.
Alors si aujourd'hui il y a près de quoi de 19 millions de mangas vendus
en France, oui.
En France,
c'est l'année record 2019.
C'est l'année record, ce n'est pas le cas au Japon. Au Japon en revanche
ça baisse un petit peu.
Ça baisse un peu, mais comment par exemple s'il fallait parler du dernier super-héros fabriqué au Japon par les éditeurs de manga. Prenons l'exemple.
Le dernier, qui est le plus emblématique, hein, qui a vraiment marqué le monde entier lorsqu'il apparaît en 2016, voilà, quand il apparaît en 2016 globalement, j'ai envie de dire, c'est One Punch Man, effectivement, qui à la base part d'un gag. C'est un auteur de manga non publié qui fait des petits blogs dans son coin, qui crée un super-héros dépressif qui s'appelle One Punch Man. Il dit, ah, ça serait marrant, tiens, un super-héros qui déprime parce qu'il tue tout le monde d'un coup de poing, donc il s'ennuie. Et il est repéré comme ça. Et c'est vraiment l'envie de faire rire avec un socle pop culturel commun. C'est-à-dire que tout le monde connaît les super-héros. Hein, voilà, il a une cape, il a des gants, des bottes. Enfin, il a vraiment un costume de super-héros. Sauf que, qu'est-ce qui définit un héros, c'est les épreuves qu'il doit affronter. Là, il n'y a aucune épreuve à affronter. Donc, c'est un super-héros malheureux. C'est juste pour se moquer.
Ça résume bien l'époque, en plus.
Oui, alors, ça, c'est surtout, je pense vraiment, sans vouloir suranalyser, c'est vraiment une volonté de se moquer du super-héroïsme, parce que c'est depuis la fin des années 2000, c'est vraiment très, très à la mode, le super-héros, notamment le super-héros à l'américaine.
C'est vraiment la mode?
Ah bah oui, avec le cinéma, avec les milliards de dollars engrangés par les Avengers, par Spider-Man, par tout ça. Ça fait aujourd'hui, les super-héros américains sont omniprésents dans la pop culture et même dans la culture d'une manière générale. Il y a eu un retour en force des super-héros américains dès le début des années 2000.
Et donc, dans le manga, on se moque d'eux?
Complètement. On se moque complètement des super-héros classiques. One Punch Man montre les super-héros sous un jour finalement assez peu flatteurs, quoi. Ceux qui sont très braves et qui veulent se donner pour le bien commun, etc., sont tournés en ridicule parce que on les montre comme des espèces de drama queen qui veulent toujours se sacrifier alors qu'il n'y a pas besoin. Il y en a d'autres qui veulent devenir des héros juste pour être connus ou juste pour être riches, etc. Et le héros qui, One Punch Man, lui, il arrive au milieu de tout ça. Il comprend rien parce que lui, il voulait juste être un super-héros parce qu'il trouvait ça super. Ça le motivait dans la vie. Et au final, il se rend compte que, comme il n'y a pas d'enjeu, puisqu'il gagne tout le temps, il s'ennuie en fait. C'est à quoi bon sauver le monde si personne ne le sait? C'est-à-dire que dès qu'une menace apparaît, il la détruit tellement vite qu'il n'a droit à aucun honneur. Il n'est reconnu par personne. C'est-à-dire qu'il y a d'autres héros qui font beaucoup moins de choses que lui, mais qui vont sauver une vieille dame qui allait se faire renverser par une voiture. Tout le monde le voit, tout le monde le filme, le met sur Internet. Donc le gars devient super connu, populaire, etc. Alors que One Punch Man, il va arrêter un météorite qui tombe sur la Terre, mais personne ne le voit, puisque tout le monde est parti se planquer. Et il l'a explosé d'un seul coup, donc personne ne l'a vu. Il transpire même pas, donc on peut pas dire « Ah, c'est lui qui nous a sauvés ». Donc voilà, il est malheureux et il trouve tout ça inepte finalement. Donc c'est assez amusant.
Aujourd'hui, maintenant que le manga est devenu un phénomène mondial, est-ce que dans les maisons d'édition de manga au Japon, quand on fabrique des super-héros, quand on étudie des personnages ou quand on a envie de lancer des nouvelles bandes dessinées, on pense global, on pense au monde entier ou ça reste quand même très orienté vers le public japonais?
Alors le manga a beau être très très puissant en France et en Amérique, en Allemagne, et il y a un gros secteur de développement en Amérique du Sud aujourd'hui, les Japonais restent malgré tout très centrés sur eux-mêmes. Tout simplement parce que déjà, on est très fiers d'avoir vendu 19 millions de mangas en France l'année dernière. 19 millions de mangas, c'est à peine ce qu'a vendu juste One Piece au Japon. Donc, on est encore très très loin des scores japonais. Après, il faut voir aussi une chose, c'est que les Japonais, plusieurs fois, ont déjà essayé de faire des héros pour les autres. Voilà, ça n'a jamais marché. Parce que ils pensent savoir ce qu'on veut, mais en fait, ce qu'on veut, c'est parce que eux pensent qu'on veut. C'est ce qu'on attend du manga, c'est justement d'être surpris par des personnages auxquels un auteur français n'aurait pas forcément pu penser.
Le réveil culturel de Tofik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr.
Astro Boy, Cœur de Fer, de Nicolas Tellop, dans la collection La Fabrique des Héros, c'est édité par les Impressions Nouvelles. Et puis les mémoires d'Hiroki Goto et de l'histoire du Weekly Shonen Jump, disponible enfin en France. Très beau livre, grâce à vos éditions Grégoire Hello. Merci d'être venu.
Merci à vous.
Et merci Nicolas Tellop d'être venu.
Pour la fin d'année, offrez-vous France Culture. Des philosophes amoureux, des animaux, les dernières nouvelles de l'univers.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Alors que Joe Biden prend la tête d'un pays fracturé où la pandémie s'accélère, quels sont les grands chantiers économiques qui attendent le nouveau président ?
Sur France Culture, Tiffaine de Rocchini.
Premier défi, répondre à la crise sociale qui secoue les États-Unis. Le chef de l'État devra ensuite trouver les moyens de financer son ambitieuse relance verte et engager un bras de fer avec les géants du numérique dont le pouvoir ne cesse de grandir. Pour en parler, nous recevons trois grands économistes installés aux États-Unis : Gabriel Zucman, Thomas Philippon et Pierre-André Chiapori.
Entendez-vous l'écho ? Du lundi au vendredi à 14h sur France Culture et sur franceculture.fr.
Telle Céline Dion, pommeau de douche en main, donnait de la voix dans sa salle de bain.
Sur France Culture, le documentaire se déploie en grand format. Perrine Kervran.
Reprendre les tubes façon clo-clo des petits chanteurs d'Asnières, rêver d'envoler lyrique ou s'imaginer dans les steppes apprendre le chant diphonique. Mais en fait, mais si on chantait, c'est la bonne résolution de LSD cette année.
LSD, la série documentaire, du lundi au jeudi à 17h et sur franceculture.fr.
6h30 sur France Culture, le journal par Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Un conseil de défense sanitaire va se tenir aujourd'hui autour du président Emmanuel Macron, mais en visioconférence. L'inquiétude grandit à propos d'un éventuel troisième confinement. Trois Français ont été tués hier au Mali. Trois hommes âgés de 21 à 28 ans. Ils étaient à bord de leur véhicule blindé quand ils ont roulé sur un engin explosif. Et puis le Parti communiste français fête son 100e anniversaire. Le PCF n'est pas mort malgré son déclin, nous dira l'historien Roger Martelly, lui-même ancien membre du PCF. Un nouveau conseil de défense sanitaire aura lieu aujourd'hui autour d'Emmanuel Macron en visioconférence, alors que plusieurs élus réclament un nouveau confinement ou des confinements locaux. En tout cas, la question se pose, vu la situation sanitaire liée au Covid-19, selon Jean Rottner, président de la région Grand Est, région très touchée par la pandémie.
Est-ce qu'il faut confiner une seule région ? Est-ce qu'il faut confiner quelques départements ? Est-ce qu'il faut confiner que certaines grandes villes ? Toutes ces décisions, bien, elles appartiennent effectivement au gouvernement, mais ils se les posent avec nous. Moi, j'ai été interrogé à ce sujet, la préfète, la directrice générale de l'ARS également, pour que cette décision puisse être la plus juste possible et la plus efficace possible. Je vous rappelle en tout cas qu'aujourd'hui, bien, les restaurants sont toujours fermés partout en France, les cultures sont toujours fermées partout en France, et qu'un confinement court, justement, nous permettrait de ne pas trop perdre, de ne pas être trop différent par rapport aux autres régions. Mais tout cela se module et c'est des décisions qui, à un moment donné, appartiennent là clairement au gouvernement, c'est vrai.
Alors, le scénario d'un troisième confinement peut-il se réaliser ? Ça n'en prend pas le chemin, d'après vos informations, Maxence Lambrecq. Le Conseil de défense semble être un point d'étape plus qu'un rendez-vous décisif.
Cela reste le meilleur indicateur, la preuve que le gouvernement ne compte pas reconfiner ce soir telle ou telle région. Si c'était le cas, le Premier ministre dans les Pyrénées cette semaine serait rentré à Paris. Là, aucun point presse n'est prévu, rien à l'agenda du ministre de la Santé ou du porte-parole du gouvernement. Il est possible que les préfets gagnent à l'issue une petite marge de manœuvre supplémentaire, que les ARS reçoivent de nouvelles consignes, mais il s'agit d'abord d'un point d'étape détaillé. Sur Matignon, il faut que le président ait le ton juste. Juste pour ses vœux jeudi soir, ajoute un de ses conseillers. Doit-il féliciter les Français ou les responsabiliser davantage ? Emmanuel Macron donnera le ton du début d'année, mais attendra le Conseil de défense de la semaine prochaine pour les décisions concrètes, une fois que les vacances seront terminées et le bilan de Noël précisé. Au sein du gouvernement, personne ne semble pour l'instant sérieusement envisager un troisième confinement, mais le fait que l'hypothèse circule nous arrange, confie un communicant. Cela pourrait en calmer certains avant le réveillon du 31.
L'hypothèse d'un troisième confinement circule donc. Les contaminations ne baissent pas suffisamment et il y a la crainte de les voir repartir à la hausse après les fêtes de fin d'année. Ajoutons aussi la peur de voir la variante du Covid découverte en Angleterre se développer dans l'Hexagone. Un premier cas a été identifié en France. La personne venait de Londres. Cette variante semble très contagieuse mais pas forcément plus dangereuse, Tarash Legal.
Les chercheurs ont repéré 17 mutations sur le génome de ce nouveau coronavirus, dont plusieurs affectent la protéine Spike, lui permettant de mieux s'accrocher encore aux cellules humaines et donc de nous infecter plus efficacement. Mais rien n'indique que le virus soit aussi devenu plus dangereux. Pour la directrice de recherche au CNRS, Morgane Bomsel, qui anime une équipe à l'Institut Cochin, c'est d'ailleurs logique.
C'est toujours un équilibre. Le virus a intérêt à se répliquer, mais pas à tuer son hôte, parce que sans ça, il ne pourra plus se répliquer. Donc, on n'a aucun élément aujourd'hui pour penser que les personnes infectées avec ce virus ont développé une maladie plus grave.
De même, les vaccins Pfizer et Moderna seront a priori efficaces contre cette nouvelle souche. Schématiquement, ces vaccins introduisent l'ARN messager qui va permettre à nos cellules de produire la protéine spike du virus, laquelle sera reconnue comme un corps étranger par notre organisme qui va donc fabriquer des anticorps pour la détruire. Malgré la mutation observée sur un acide aminé bien précis, les anticorps devraient continuer à fonctionner, explique l'immunologiste Morgan Bomsel.
Dans une grosse protéine comme la spike, vous avez des régions qu'on dit immunodominantes qui vont induire plus d'anticorps que d'autres régions, mais ces régions de toute manière sont une dizaine, quinzaine d'acides aminés. Et on peut, le système immunitaire arrive à produire des anticorps qui ciblent cette protéine par divers angles.
Autrement dit, notre armée d'anticorps reconnaîtra toujours certaines séquences d'acides aminés et sera capable d'attaquer le virus britannique malgré sa mutation. Voilà plutôt une nouvelle rassurante.
Tara Schlegel. Trois soldats français sont morts au Mali hier. Trois hommes âgés de 21 à 28 ans. Ils circulaient dans le centre du pays à bord d'un véhicule blindé quand ils ont été tués par un engin explosif improvisé. Une attaque qu'il faut remettre dans son contexte. André Bourgeot est directeur de recherche au CNRS et spécialiste du Mali.
Je crois que c'est un mode opératoire nouveau. Habituellement, ils utilisent des mines, mais c'est pas la même chose qu'un engin explosif. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que le général Lecointe, chef des états-majors, était il y a une ou deux semaines à Bamako. Ensuite, il est allé à Gao et il a envisagé un retrait progressif de l'opération militaire Barkhane. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'intervient cet attentat auprès des soldats français. Et ensuite, la troisième chose est le fait que les forces armées maliennes issu du coup d'état militaire du 18 août 2020 n'a pas particulièrement amélioré les conditions sécuritaires sur l'ensemble du Mali et plus particulièrement dans cette zone, dans le Mali central.
André Bourgeot, il répondait à Julien Langlais. Au total, depuis 2013, 51 soldats français sont morts en mission au Sahel. La France demande la libération rapide de Loujain Al-Atloul. La militante saoudienne pour les droits humains a été condamnée hier à 5 ans et 8 mois de prison en vertu d'une loi dite antiterroriste. Elle se battait notamment pour faire évoluer les droits des femmes. Elle a déjà passé plus de 2 ans en détention provisoire et pourrait sortir d'ici au mois de mars. Sa peine est assortie d'un sursis. Selon sa famille, la militante avait été arrêtée avec d'autres peu avant la levée de l'interdiction de conduire faite aux Saoudiennes. Donald Trump est sur le point d'essuyer un revers au Congrès. Hier, la majorité des parlementaires à la Chambre des représentants ont voté en faveur du budget de la défense, budget de 740 milliards de dollars. Le président sortant des États-Unis y avait opposé son veto. Il faut attendre le vote final au Sénat pour savoir si ce veto sera contourné. Ce serait une première pour le président. Donald Trump, qui laissera fin janvier la Maison-Blanche au président élu Joe Biden, ce dernier regrette ce qu'il appelle l'irresponsabilité de l'administration Trump. Il affirme qu'elle ne fournit pas les renseignements nécessaires à l'équipe chargée de la transition en ce qui concerne la sécurité nationale. Le Parti communiste français fête aujourd'hui son 100e anniversaire. Il a été fondé en décembre 1920 lors du congrès de Tours. La SFIO se divise alors en deux. Une majorité de militants décide de s'affilier à l'Internationale communiste à la suite de la révolution russe. Il crée un nouveau parti qui deviendra le PCF et connaîtra un âge d'or dans l'après-guerre avant de décliner à partir des années 70. Que reste-t-il du PCF aujourd'hui? Écoutez la réponse de Roger Martelly, historien du communisme français et ancien membre du PCF.
Le Parti communiste aujourd'hui, ce sont des militants en grand nombre. Le Parti communiste compte évidemment beaucoup moins de militants qu'il en a connus dans le passé, mais enfin, 50 000 cotisants, 30 à 40 000 participants en consultation interne, certes des résultats électoraux nationaux très faibles, mais une assise territoriale encore consistante. Le communisme municipal s'est érodé, mais ça reste une force qui compte. Il y a donc incontestablement un phénomène communiste qui reste, qu'incarnent les militants de ce PC. Je ne pense pas qu'à eux seuls, ils soient en état de relancer la machine, à la fois celle du communisme et celle de la gauche, j'allais dire notamment de la gauche transformatrice. Et en même temps, je considère que mépriser cet espace, considérer justement que c'est un espace qui est simplement renvoyé au passé est une erreur profonde. C'est-à-dire, autant je ne crois pas que ce communisme ait la possibilité à lui seul de retrouver la force qui a été la sienne, le mettre à l'écart, le mépriser, construire quelque chose contre lui est une absurdité. Mais en sens inverse, je ne crois pas à la nostalgie. Je pense que la nostalgie est un vilain défaut en politique. Il ne faut plus rêver au temps où le communisme était la force à gauche la plus forte, la plus populaire, la plus dynamique dans la perspective de transformation sociale radicale.
Roger Martelly, propos recueillis par Antoine Marette. Trois départements restent en vigilance orange pour crue, les Landes, le Gers, le Lot et Garonne. Cinq départements, l'Aveyron, le Cantal, la Corrèze, la Lozère et le Puy-Dôme sont en vigilance orange toujours pour neige et verglas. Météo France prévoit aujourd'hui 3 degrés maximum à Annecy, 4 à Lille, 5 à Paris, 6 à Strasbourg, 8 à Bordeaux et 11 degrés à Nice. Vous écoutez France Culture, il est 6h40, c'est l'heure du journal des idées. Bonjour Jacques Munier.
Bonjour Margot Delpierre, bonjour à toutes et à tous.
Vous qui lisez la presse tous les jours pour votre chronique, vous rendez hommage aujourd'hui à sa diversité, à ses analyses, à la qualité de ses investigations et à ses grands reportages.
Oui Margot, à son sujet, le ton est plus souvent critique, mais sans elle, nous en serions réduits à glaner les ragots et les rumeurs qui traînent sur le net. Je commencerai par célébrer sa vertu formatrice en évoquant le témoignage du sociologue américain Howard Becker sur le site AOC. L'auteur de Outsiders et des mondes de l'art y explique tout ce qu'il doit à la lecture assidue depuis sa prime jeunesse du célèbre magazine The New Yorker. À propos d'Edmund Wilson, le critique de livres, il souligne son goût pour des ouvrages entre guillemets obscurs liés à la guerre de sécession, des récits militaires, des lettres ou des journaux intimes de gens ordinaires qui avaient vécu la guerre dans de petites villes du Sud ou dans des plantations. Le New Yorker a ainsi contribué, écrit-il, à m'orienter vers ce qui deviendrait mon propre parcours universitaire, la sociologie fondée sur le travail de terrain, où il s'agit de côtoyer en face à face les personnes sur lesquelles vous allez écrire plutôt que de les étudier via un questionnaire ou un autre instrument scientifique. Howard Becker insiste aussi sur la qualité de l'écriture. Érigé en principe éditorial, nourri par de grandes signatures, Salinger, Nabokov, Philip Roth ou John Updike. À chaque livraison hebdomadaire du New Yorker, je recevais des piqûres de rappel de l'écriture sans fioritures ni formules qui venaient contrecarrer ce à quoi m'exposaient régulièrement les publications professionnelles de sociologie. L'auteur d'enquête sur les mondes de la musique et du jazz se rappelle l'influence du critique musical du New Yorker, notamment sa chronique sur le livre de Leonard Meyer, Émotion et signification en musique, où l'impact émotionnel de la musique est décrit comme le résultat de conventions sociales, un accord mineur par exemple évoquant la tristesse. En identifiant les éléments musicaux qui sonnaient tristes ou signifiaient la fin de quelque chose, et au-delà tous les autres messages émotionnels, Meyer m'a fourni le lien dont j'avais besoin entre le langage musical et les idées sociologiques, en particulier la notion d'attente partagée que les participants à des situations récurrentes négocient et renégocient d'instant en instant pour former le fondement de la coopération qui est la façon dont la vie se déroule de minute en minute. Sur le site En attendant Nadeau, Jean-Yves Potel rend compte du livre de l'écrivain et journaliste slovaque Arpad Soltes sur le meurtre du journaliste d'investigation Jan Kuciak et de sa compagne archéologue. Conséquence dramatique de son enquête sur les liens entre le pouvoir politique des oligarques véreux et une mafia italienne, des liens depuis lors avérés. Un récit qui montre l'envers de la Slovaquie d'aujourd'hui, publié sous le titre Le bal des porcs chez Agulo. Pas de psychologie, des comportements, pas de suspense, la logique implacable des intérêts et des pseudo-codes de l'honneur. Confrère de Jan Kuciak, Arpad Soltes est aussi l'une des grandes figures du journalisme d'investigation en Slovaquie. Quand il veut informer, prouver ou dénoncer, Soltes rédige des articles précis et inattaquables en justice, précise Jean-Yves Potel. Il est réputé pour le sérieux de son travail sur le crime organisé. Là, il suit sa pente ironique dans le reflet de l'atmosphère médiatique de son pays et se présente en prostituée de journaleux qui affabule comme un mécréant, non sans reconstituer avec un réalisme effrayant les rapports de force, les parlers et les motivations des voyous haut placés, tout en dessinant, le portrait accablant d'une dégénérescence qui prit le nom de transition vers la démocratie. Sur le site de l'Acrimède, l'Observatoire critique des médias, Frédéric Lemaire s'entretient avec le journaliste Yann Douet de la pensée de Gramsci sur la presse, lui qui commença sa lutte politique comme journaliste et fonda plusieurs journaux, dont l'Unita. C'est à travers l'analyse du pouvoir de l'information que se forge son concept d'hégémonie culturelle et politique. Dans ses cahiers de prison, il parle de journalisme intégral, lequel ne cherche pas seulement à répondre aux besoins d'une information de qualité, mais veut créer son public, c'est-à-dire transformer ses lecteurs. Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux avec vous, Antoine Dulster, bonjour.
Bonjour Jacques Munier, bonjour à toutes et à tous.
Au sommaire aujourd'hui, l'Iran dans la perspective de la prochaine élection présidentielle.
Oui, Jacques, pour ce deuxième temps d'une semaine entièrement consacrée au grand dossier diplomatique à surveiller en cette année 2021. Élection présidentielle en Iran, donc, ce sera le 18 juin prochain, c'est du moins la date qui est prévue. Et c'est une élection qui pourrait avoir des répercussions diplomatiques importantes. Le camp conservateur est donné favori après les deux mandats du président sortant Hassan Rouhani. Un président Rouhani qui était favorable au dialogue avec les Occidentaux et notamment les Américains, malgré le contexte de ces dernières années marqué par notamment par le retrait des États-Unis de Donald Trump de l'accord sur le nucléaire en 2018, ce qui a ouvert la voie à une nouvelle escalade entre les deux pays avec de très lourdes sanctions américaines et côté iranien la reprise de l'enrichissement de l'uranium au-delà des limites prévues par l'accord. Cette logique de l'escalade peut-elle s'arrêter avec l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche? Quels sont les rapports de force politique à Téhéran à quelques mois de l'élection présidentielle et quelles peuvent être les conséquences diplomatiques de cette élection? Nous en parlons avec Mariam Pirzadeh. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à France 24, vous avez été correspondante à Téhéran. Mariam Pirzadeh, peut-être en quelques mots pour commencer, quelques mots sur le contexte politique. Rouhani est au pouvoir encore plusieurs mois. Quel bilan diplomatique laissera-t-il ce président Rouhani? Il s'était engagé résolument pour un rapprochement avec les Occidentaux, mais depuis quelques temps, il n'a plus vraiment la main, c'est le moins qu'on puisse dire.
Exactement. Hassan Rouhani laissera le bilan d'un président, le seul peut-être depuis la République islamique, vient d'avoir négocié avec les Américains, négocié avec les Occidentaux, d'avoir réussi à ramener le temps de quelques mois, presque un an, l'Iran dans le concert des nations, à la faveur donc de cet accord sur le nucléaire iranien, et d'avoir convaincu le guide suprême, donc qui a vraiment la main sur les affaires du pays, l'ayatollah Khamenei, qu'il fallait négocier avec les Occidentaux, qu'il fallait arrêter d'agir comme un pays en autarcie, de ne compter que sur ce soi-même, et de provoquer des investissements, de faire venir des investisseurs européens en Iran et de tendre la main, pas directement aux Américains, mais voilà, d'amorcer une détente. Sauf qu'effectivement, cinq ans après la signature de l'accord sur le nucléaire, il n'en reste plus rien. Le 14 juillet 2015, l'accord est désormais une coquille vide. Donc malheureusement, il quitte la présidence. Enfin, malheureusement pour lui, il quitte la présidence de la République islamique sans bilan économique, sans ces investissements qu'il avait promis aux Iraniens au moment de son élection et de sa réélection en 2017.
Alors, Mariam Pirzadeh, vous dites que l'accord sur le nucléaire est une coquille vide désormais. En tout cas, Joe Biden au New York Times, et il l'a répété plusieurs fois par la suite, a déclaré début décembre que la priorité de son administration à partir du mois de janvier, c'est de revenir à cet accord et ensuite d'entamer des discussions avec toutes les parties et notamment l'Iran. Évidemment, tout cela serait soumis à énormément de contraintes. Mais si on est du point de vue des Iraniens, cette idée de la main tendue vers l'Occident, que pèse-t-elle politiquement et par quelle partie du champ politique cette option pourrait être soutenue aux prochaines élections?
Alors, la seule, vous savez, en Iran, il n'y a pas de parti. Il y a deux camps. Il y a les modérés, donc qui sont représentés par Hassan Rouhani, et les conservateurs. Les modérés sont désormais non pas, si vous voulez, de comment expliquer ça, non plus la confiance de la population iranienne, parce qu'ils avaient promis beaucoup de choses. Donc, les modérés, qui sont menés par Hassan Rouhani, et surtout par son ministre des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, hein, ce que j'appelle la diplomatie du sourire. Donc, Mohammad Javad Zarif, qui s'est rendu à de nombreuses reprises en Europe, qui a négocié directement avec son homologue de l'époque, John Kerry. On a vu ces poignées de main historiques entre un Iranien et un Américain. Et bien, tout cela, c'est fini. Parce que maintenant, Hassan Rouhani et son chef de la diplomatie sont vus comme des naïfs, comme des faibles, qui ont tendu la main aux Occidentaux et surtout aux Américains. Et là, les conservateurs disent, regardez où ça nous a menés. Ils sont sortis de cet accord. Et maintenant, tout le monde, tous nos problèmes viennent de la sortie de cet accord et des investissements qui n'ont jamais lieu. Donc effectivement, au moment de cette élection, au moment de cette campagne électorale, donc qui va commencer dans 3-4 mois, eh bien les conservateurs vont jouer dessus pour empêcher les modérés de remporter cette élection, qu'ils ne remporteront très vraisemblablement pas de toute façon.
Alors Mariam Pirzadeh, ce durcissement qui est à craindre, en réalité, il a déjà peut-être commencé. On peut rappeler évidemment un événement qui a choqué ces derniers jours. Je parle évidemment de l'exécution de l'opposant Rouhollah Zam, un journaliste qui avait le statut de réfugié politique en France, hein, ce n'est pas rien évidemment, qui a été attiré en Irak par le régime et exécuté donc le 12 décembre, suscitant l'indignation internationale et pas seulement en France. On peut rappeler aussi un climat très anxiogène pour les chercheurs, pour les scientifiques qui se rendent en Iran. Faut-il rappeler sur cette antenne voilà, la situation de Fariba Adelka qui est toujours en Iran, celle de Roland Marshall qui est rentré évidemment, lui qui avait été condamné pour des motifs tout à fait politique, hein, mais qui était chercheur en Iran. Ce climat politique à Téhéran, donc il pèse, on le voit bien. On a l'impression que le changement politique, d'une certaine manière, a déjà eu lieu. Je reviens peut-être un tout petit peu sur ce qu'on disait, sur la fin du crédit politique d'Hassan Rouhani, peut-être.
Oui, alors la politique initiée par Hassan Rouhani d'ouverture de main tendue vers l'Occident a mené effectivement à une ouverture du pays. C'est-à-dire que moi je me rappelle en 2014, lorsque les entreprises européennes venaient prospecter en Iran, jamais les Iraniens n'avaient vu autant d'Européens dans les rues de Téhéran, des hommes en costume qui venaient conclure des contrats, parce qu'on appelait, souvenons-nous, à l'époque de l'Iran, on le voyait comme un Eldorado, parce qu'il y avait tout à construire, tout à acheter. Donc voilà, et beaucoup de binationaux sont revenus en Iran, des générations, des enfants de parents qui avaient fui la République islamique, qui avaient fui la révolution islamique. Ces générations de trentenaires sont revenus en Iran, donc dans le pays que leurs parents avaient quitté, pour fonder des entreprises, pour être acteurs de cette ouverture de l'Iran vers le monde. Et 5 ans plus tard, c'est une douche froide pour ces personnes-là qui aujourd'hui ont peur de retourner en Iran. Effectivement, vous l'avez dit, parce que lorsqu'on est binational, on peut être une monnaie d'échange pour la République islamique. Donc beaucoup de personnes aujourd'hui ont peur d'aller dans leur pays, leur deuxième pays. Il y a, vous l'avez dit, le climat est délétère pour les chercheurs. L'exécution de Rouhollah Zam a choqué jusqu'au plus haut sommet de l'État en France notamment. Je me souviens des mots de Jean-Yves Le Drian qui parle d'un acte barbare. Ça veut dire effectivement. Alors, il faut savoir déjà une chose, c'est que le département de la justice échappe de toute façon totalement au président de la République.
Ouais, c'est pas la diplomatie en tant que telle, mais effectivement, c'est un signe qui n'incite pas à la détente.
Mais bien sûr, donc c'est-à-dire que là, si vous voulez, les durs, ce qu'on appelle les durs, ont repris le pouvoir, ont complètement refermé le pays qu'avait ouvert Hassan Rouhani, et Hassan Rouhani est totalement mis au banc aujourd'hui de l'échiquier politique iranien.
Alors, Mariam Pirzadeh, Georges Malbruno, dans le Figaro, hier, parle d'un calendrier très serré pour l'éventualité d'une détente ou de quelque chose qui ressemblerait pas trop à ce scénario catastrophe qu'on est en train peut-être d'essayer de brosser pour cette année 2021 en Iran. Est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui est à attendre, puisque le président Rouhani est encore au pouvoir pour quelques mois, l'administration Biden arrive, est-ce qu'il y a quelque chose qui est possible et qui pourrait influer sur le résultat des élections à venir au mois de juin?
Non, ça paraît assez peu probable. Le calendrier est effectivement très serré parce que Joe Biden arrive au pouvoir, va arriver au pouvoir en le 20 janvier. Je ne pense pas que l'accord sur le nucléaire va être sa priorité. Non, de toute façon, effectivement, au moment, en 2014, lorsque les négociations, 2013, lorsque les négociations secrètes ont repris entre Américains et Iraniens pour arriver à un accord sur le nucléaire, il y avait une sorte d'alignement de planète, c'est-à-dire un président américain, Barack Obama, qui voulait négocier avec les Iraniens, un président iranien qui voulait négocier avec les Occidentaux. Là, cet alignement de planète n'est plus là. Donc, ça ne va pas changer. Effectivement, l'élection de Joe Biden a été vue comme un soulagement pour beaucoup d'Iraniens, mais plutôt en se disant, voilà, ça va être la fin des sanctions, ça va être la fin de la pression maximale. Là, la main tendue des modérés est menée par Mohammad Javad Zarif, donc le chef de la diplomatie iranienne, pour dire, voilà, nous sommes prêts à négocier, pas à négocier, mais nous sommes prêts à vous accueillir de nouveau dans l'accord sur le nucléaire iranien. Eh bien, ce ne sera pas du tout la même chose si les conservateurs arrivent au pouvoir, parce que les conservateurs se sont toujours opposés à cet accord sur le nucléaire et ne voudront pas négocier avec Joe Biden. Sauf que l'état des finances iraniens n'est pas du tout le même qu'en 2013, que là, les caisses de l'État sont totalement asséchées par ces sanctions. Donc, est-ce qu'il va y avoir une sorte de stratégie, de jeu à jouer de la part des conservateurs pour à la fois, du côté de leur électorat, dire non, nous ne sommes pas des assujettis aux Occidentaux, nous résistons face à la pression, et à la fois négocier en sous-main parce qu'ils n'ont pas le choix. Et c'est pour ça aussi qu'ils avaient négocié en 2014-2015, parce qu'il fallait remettre des liquidités dans les circuits financiers de la République islamique. Là, la République islamique est complètement asséchée, les caisses de l'État sont pratiquement vides. Donc les autorités iraniennes n'auront peut-être pas d'autre choix que de négocier avec Joe Biden pour revenir dans cet accord qui, encore une fois, n'a pas eu le temps de porter ses fruits.
Eh bien, on en reparlera en tout cas tout au long de cette année 2021 avec vous, peut-être sur notre antenne. Merci beaucoup, Mariam Pirzadeh. Je rappelle que
vous
êtes journaliste sur France 24. Vous avez été correspondante à Téhéran.
Pour la fin d'année, offrez-vous France Culture. Des philosophes amoureux, des animaux, les dernières nouvelles de l'univers.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Je vous donne rendez-vous mardi à 19h en compagnie de Marie Desplechin.
Sur France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
Pour les enfants ou pour les grands, pour le théâtre ou pour le cinéma, Marie Desplechin excelle dans tous les registres d'écriture. Nous essaierons d'en savoir plus sur ce qui nourrit un imaginaire si vaste et sur les méthodes de travail d'une autrice si prolifique.
Affaires culturelles, ce mardi à 19h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Le virus de la Covid, je ne sais pas vraiment quand je le croise, mais je sais qui j'ai croisé. Alors, si je suis testé positif, je m'isole et je communique la liste des personnes avec qui j'ai été en contact à mon médecin traitant et à l'assurance maladie pour qu'ils puissent les alerter. En parallèle, j'alerte moi-même sans attendre mes collègues de travail, ma famille, mes amis. Plus vite ils seront informés, plus vite ils pourront s'isoler eux-mêmes et éviter d'infecter d'autres personnes. Oui, en identifiant les personnes à risque, j'aide à ralentir la propagation de l'épidémie.
Tester, alerter, protéger. Le bon choix, c'est de faire les trois. Ensemble, continuons l'effort. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France.
Vous écoutez France Culture, il est 6h57, c'est l'heure de vous retrouver, Hervé Gardette, bonjour.
Bonjour Antoine Dulster.
Alors dans votre billet d'humeur aujourd'hui, vous nous parlez d'un sujet étrange, le doublage et les jeux vidéo.
Si je vous dis Lionel Astier, Antoine, ça ne vous dira peut-être pas grand-chose. Son visage est un petit peu plus parlant. Le comédien a incarné pendant des années un des personnages de la série parodique Kaamelott sur M6, une revisite de la légende du roi Arthur. Si je vous en parle ce matin, c'est parce que j'ai vu son nom et son visage il y a quelques jours dans le métro, non pas pour une pièce de théâtre, ni pour un film de cinéma, mais sur une affiche publicitaire pour un jeu vidéo Immortals Phoenix Rising, avec cette mention censée appâter le chaland, Lionel Astier est la voix de Zeus. Et j'en déduis donc que Zeus est un des personnages de ce jeu. Alors ma première réaction était de me dire qu'à son tour, l'industrie du jeu vidéo cédait à cette étrange manie qui consiste à prendre des acteurs connus pour incarner des personnages fictifs. C'est devenu systématique pour les films d'animation et je n'ai jamais très bien compris pourquoi ces films s'entichaient de vedettes plutôt que de laisser la place aux vrais professionnels du doublage, dans la mesure où les comédiens déforment leur voix pour se glisser dans la peau des héros de dessins animés, si bien qu'on ne les reconnaît presque jamais. Or voilà que le jeu vidéo en fait lui aussi un instrument de promotion. Keanu Reeves, connu pour son rôle dans Matrix, interprète ainsi le personnage principal de Cyberpunk 2077 qui était annoncé comme la grande nouveauté de cette fin d'année. Le lancement ne s'est pas passé comme prévu, mais ça c'est une autre histoire. Alors on peut voir dans cette extension du domaine de la comédie le triomphe des acteurs en chair et en os sur le monde virtuel. Le second serait incapable de se passer des premiers. Mais en fait, n'est-ce pas le phénomène inverse auquel nous sommes en train d'assister, les comédiens se faisant progressivement absorber par des personnages pixelisés jusqu'à disparaître totalement de l'écran. Et si c'était ça l'avenir pour le monde du spectacle vivant? Alors, je gamberge sans doute un peu trop à cause du confinement et j'ai peut-être beaucoup trop lu les nouvelles de Philippe Cadic ces derniers jours, mais je ne serais pas plus étonné que ça si la prochaine fois que j'appelle la hotline de mon fournisseur d'énergie ou celle de mon opérateur téléphonique, j'entends à l'autre bout du fil la voix de Sophie Marceau ou celle de Gérard Depardieu.